Alors ensuite, avant pour commencer ce conseil, j'ai reçu quelques questions du groupe Licensable, de M. De Bruyne, M. Strat et Mme Mazerel. Et je pense que le mieux de tous, c'est peut-être d'y répondre tout de suite, dans la mesure où où je peux répondre à toutes les questions et puis voir si les réponses sont satisfaisantes. Donc la première question, c'est: nous avons eu plus de 6 réformes sociales en 18 mois et nous nous inquiétons notamment sur le devenir des associations. Les collectivités locales sont privées de 20 milliards d'euros de recettes suite à ces différentes réformes. Que comptez-vous faire face à ce manque? J'avoue que on attend de voir à quelle sauce on va être mangé déjà pour la taxe d'habitation. Mais malgré tout, nous n'augmenterons pas les impôts. Et je pense que les associations à Lycée-la-Noix pourront vivre correctement. Il y a une deuxième partie de cette question. Enfin, l'association CIAVIC va être mise en péril par la baisse importante de leurs subventions et ne pourra plus honorer ses engagements et les demandes qui lui sont faites par la commune et par les citoyens. Cette association rend de grands services. Nous vous demandons, Monsieur le maire, d'accepter le principe d'une subvention complémentaire pour compenser cette perte. Alors pour l'instant, nous n'avons pas eu de demande de l'association. Il y a, je pense, leur assemblée générale au mois d'octobre. Et bien sûr que si toutes les communes qui bénéficient du service de la CIAVIC sont dans le même élan pour augmenter les subventions ou pour tout simplement payer des subventions qu'ils ne payent pas, là, bien sûr, nous suivrons le mouvement, mais nous n'allons pas le faire tout seul. Oui.
Monsieur le maire, quand on parle de baisse de subventions, ce n'est pas des baisses des communes, hein, c'est des baisses de l'État. Hein,
parce oui, que, je sais bien. Mais
oui, parce qu'on demande une compensation, parce que bon, c'est une association qui fait un boulot énorme. Quand on connaît le salaire des personnes, ce n'est pas eux qui consomment les subventions de la commune. Et c'est même très inquiétant pour l'avenir de cette association et pour les Lissois en notre autre.
Mais s'il y a un problème avec cette association, c'est ce que je dis, si toutes les communes qui bénéficient des services, s'il faut compenser une fois de plus ce que l'État ne paye pas, il va bien falloir le faire parce que le service est rendu, mais nous n'allons pas le faire tout seul.
Non, mais oui, justement, oui. Je voulais que ce soit, que Lycée-la-Noix soit fer de lance, si je puis dire, pour entraîner un peu les autres communes aussi.
Comme d'habitude.
On le fera, mais vous savez aussi que en face des baisses de dotation de l'État, il y a aussi la diminution du nombre de contrats aidés, donc une inquiétude aussi sur l'association Espoir. Il y a aussi une inquiétude importante dans le milieu sportif. Je parle sous le témoignage d'Agnès. Qu'est-ce qui va arriver? Comment les associations vont-elles être... Voilà, donc on est on partage cette inquiétude. Ce qu'on pourra faire, on le fera. Mais comme disait Monsieur le maire, le CIAVIC, ce n'est pas une association qui est uniquement lissoise. Elle rayonne quand même sur le territoire roubaisien, voire au-delà. Et elle rend même des services au niveau de la métropole parce qu'elle est pilote sur pas mal de choses. Donc il y a sans doute besoin d'une réunion des financeurs, sans doute donc des communes adhérentes, mais qui quelquefois ne paient pas non plus leurs subventions, et de la métropole.
Bien, la question suivante, c'est: avez-vous pensé à un éventuel plan de circulation cyclable pour notre ville qui pourrait rattraper la piste existante direction de Touflers et Ouillem? Donc j'ai plusieurs choses à faire. D'abord, je me suis associé à un travail qui est fait par une grande partie des communes qui sont bordées par la Marque. Donc la Marque est considérée comme ce qu'on va appeler la colonne vertébrale pour traverser, bien sûr qu'elle traverse différentes communes. Et tout au long de cette Marque, nous allons la nettoyer, la remettre en état et faire une piste cyclable ou une piste piétonne sur les rives de cette Marque. Donc, ça part de Marquette et ça arrive là-bas jusqu'à Templeuve. Je ne vais pas vous énumérer toutes les villes que la marque traverse, mais toutes les communes. On a réuni toutes les communes à l'initiative de M. Vercamer. Et avec la MEL, nous sommes en train de travailler pour faire cette colonne vertébrale. Alors vous allez me dire que l'Isle-Lanois n'est pas traversée par la marque. Ouais. C'est assez logique. Mais j'ai voulu m'associer à ce travail parce que nous avons ce qui a été créé, qu'on appelle maintenant la trouée verte. Donc la trouée verte qui va aller jusqu'au canal de Roubaix, bientôt, quand elle pourra passer derrière le collège Van der Merch, et qui relie là-bas jusque M en traversant par la rue Jules Guesde à M. Donc ça c'est une chose. Ensuite, on a créé aussi à l'intérieur de l'Isle-Lanois différentes boucles qui passent notamment par l'Agora, qui passent par l'église Saint-Luc, qui passent par la ferme du Gauquier, qui traversent aussi l'Lanois et qui rejoint cette trouée verte pour faire toute une boucle qui pourra être en piste cyclable. Une deuxième chose, j'ai travaillé ce matin avec l'UTRV, où on est en train de faire la réhabilitation complète du parc d'activité. Et toutes les routes du parc d'activité seront bordées d'ici 2020 de chaque côté d'une piste cyclable. C'est-à-dire qu'en partant du rond-point du Frénois, on pourra aller jusqu'au collège à Lers, on pourra aller de l'autre côté à Touflers, et c'est prévu que de chaque côté il y aura une piste cyclable. Donc ça c'est déjà une chose. Et il y a une troisième chose que j'ai testée pour vous. En partant de la place Fédère, on peut très bien rejoindre, traverser par la rue Jules Guesde à M, tout au bout, on reprend de l'autre côté, on arrive au parc du Héron. Et quand on est au parc du Héron, on peut très bien, avec encore un petit peu d'énergie, pousser plus loin jusque William. Donc ça existe, mais bon, il faut y aller. Voilà, donc c'est des choses qui vont se faire pour le déplacement doux. Hein, on est en train d'y travailler. Ce sera fait pour 2020. La MEL va quand même y mettre 2,5 millions pour réhabiliter le parc d'activité avec les pistes cyclables. Nous allons mettre l'éclairage et puis on roule. Voilà. Ensuite, la troisième question. Des interventions sont-elles prévues concernant les suppressions de classes? Ben, je pense que l'Isle-Lanois a déjà été aussi, une fois de plus, le fer de lance de ce gros problème. Et nous avons reçu l'accusé de réception de M. le ministre. Malheureusement, j'aurais voulu que ce soit accompagné d'un courrier d'explication, mais il n'y a eu que l'accusé de réception. Donc, c'est déjà bien. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Hein,
Paul, tu veux... Après, concernant les fermetures de classe, je pense que c'est important de rappeler le contexte. Quand on est sur un trottoir au bout du site Eustin, donc sur Lanois ou sur Lys, un enfant en CP a 27 autres camarades dans sa classe, voire 28 par niveau. Et de l'autre côté du trottoir, il y en a un pour 12. Et je pense que tout le monde ici ne peut nier le fait que c'est quand même une inégalité républicaine et c'est la mesure la plus injuste qui a été prise par l'État depuis au moins les lois de décentralisation. Au niveau de l'éducation nationale, c'est une loi injuste. C'est bien pire que la réforme des rythmes scolaires. Là, un enfant en CP n'a pas la même chance de réussir dans l'école publique. On est en train de détruire l'école publique. Et nous, en tant qu'élus, enfin au moins je parle au nom du groupe de l'Union pour l'Issois, on ne laissera pas faire et toutes les actions qu'on pourra faire, on le fera. On a un courrier, il n'y a pas de réponse. Je tiens aussi à remercier la presse qui est le seul relais, La Voix du Nord et Nord Éclair, c'est notre seul relais. On a aussi envoyé ça à d'autres médias, aucun ne l'a repris. Heureusement aussi qu'il y a la presse qui relaie, ça permet aussi que l'État peut-être commence à regarder notre situation. Parce que les chiffres, notamment au niveau de l'école du Petit Prince, c'est en CP, c'est 1 pour 28 et 1 pour 29. C'est une inégalité. Il y a juste à prendre le trottoir d'en face, c'est 1 pour 12 de l'autre côté. Donc nous, on ne laissera pas faire. Et s'il faut, on fera d'autres actions. Et si vous avez des idées, on est prêt à les entendre.
Oui, mais je posais la question, mais vous savez qu'on vous soutient là-dessus,
Et sure, oui, merci.
Il fallait que ce soit dit au conseil municipal.
Oui.
Ah oui, non, mais on connaît votre, votre implication et le nombre de questions que vous avez posées et les idées aussi que vous aviez émises. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui doivent être faites pour aussi prévenir la fermeture de classe qui pourrait avoir l'année prochaine. Parce qu'on parle de l'enseignement au collège qui va être touché, mais il y a également l'ouverture, l'obligation de scolariser les enfants à 3 ans. Donc, il y aura encore une fois une répartition des postes. Donc, on prendra encore une fois chez les mêmes. Voilà.
Donc, sujet à suivre. Ensuite, il y avait une question. Face au problème de pollution, avez-vous pensé à conseiller aux parents qui laissent tourner longtemps leur voiture à la sortie des écoles de couper leur moteur? Il y a des voitures modernes avec un stop and go automatique. Mais donc je suis intervenu auprès du conseil municipal des enfants où ils travaillent sur ce problème de la circulation et de la pollution. Donc ils sont en train de réfléchir à une affiche ou à un petit autocollant qui pourrait le mettre dans la voiture de leurs parents pour leur demander de couper les moteurs. Je pense que c'est de la pédagogie qu'il faut faire avant tout. Cher à M. Astrat, la pédagogie. Voilà. Alors, encore une question. Il y avait un problème avec la ville de M, des maisons non comptabilisées, bâties sur les Célanois et considérées comme émoises. Une décision a-t-elle été prise ? Alors, c'est un sujet qui a été évoqué en 2013. Le dossier a été mis dans l'étouffoir, comme on dit, hein, en dessous du paquet, pour être certain de ne pas être embêté avec ça. Alors maintenant, nous avons repris, bien sûr, ce dossier. Nous sommes en train d'y travailler. Voilà. Monsieur Ostrat.
Merci, monsieur le maire. Je voulais revenir à la première question et à votre réponse. Vous répondez donc à la question. Donc, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et les associations pourront donc continuer à bien vivre.
Oui,
je ne vois pas bien
le
rapport entre les deux.
Ah, si vous ne voyez pas le rapport, quand il y a une baisse de 20 milliards de recettes, nous, ce que nous avons fait pour permettre aux associations de vivre, nous avons fait des gros efforts de gestion, ce qui nous permet de ne pas pénaliser les associations et de ne pas augmenter les impôts. C'est grâce aux efforts de gestion que l'on fait.
Oui, d'accord. Vous mettez en avant, effectivement, de ne pas pénaliser davantage les associations.
Ah oui.
D'accord. Donc la question, c'était plutôt de demander dans quelle mesure on peut continuer à les aider, justement, parce que certaines d'entre elles sont en difficulté, on le sait bien. Elles le seront de plus en plus, malheureusement, avec les différentes mesures qui ont été prises au niveau du sport en général. Et il est fort à craindre que certaines associations qui sont pluridisciplinaires aient de nombreuses difficultés à continuer à proposer ça aux Lissois et à toutes les populations qui côtoient ces associations.
Ben oui, il ne fallait peut-être pas supprimer les emplois aidés.
Bonsoir. Si je peux me permettre, je pense que la question a tout lieu d'être, mais peut-être un peu tôt. La réforme actuelle sur le sport nous fait part de beaucoup d'interrogations, mais à tous les niveaux, il faut le reconnaître. À l'heure actuelle, tout ce que nous savons, c'est que le gouvernement veut supprimer 1600 postes au ministère des Sports sur 3000. Donc ça veut dire plus de la moitié. On a les Jeux Olympiques en 2024, ça me paraît aberrant, voire inconcevable. De nombreuses pétitions circulent du mouvement sportif pour justement mettre en avant les difficultés qui vont être soulevées, notamment pour les sportifs, les jeunes, mais aussi pour les associations, les collectivités et tout le mouvement régional et national sportif. Cela dit, on attend, il y a 56 millions de budget en moins en 2019, dans le CNDS. On attend la refonte de deux agences qui vont arriver à partir de janvier. Une agence du sport de haut niveau et qui comprend des représentants des collectivités, des représentants du mouvement sportif. et des représentants de l'État. Donc, pour l'instant, les deux agences sont en prévision au premier trimestre 2019. On ne sait pas du tout, personne ne sait exactement comment ça va se passer. Les préfets de région ont eu l'instruction d'avoir la réorganisation au niveau régional en matière sportive pour chaque région qui va être renvoyée au niveau du ministre, de la ministre, mi-octobre. Et après, les décisions seront prises à partir de fin octobre. Donc à l'heure actuelle, il y a tellement d'incertitudes. On ne sait pas par quels moyens ils seront compensés. Est-ce que le sport aura toujours sa place comme aujourd'hui, ou est-ce que ça va être un système libéral comme en Angleterre où les licences seront au prix de 500 à 1000 euros minimum par personne. Donc celui qui a de l'argent, il pourra faire du sport. Donc c'est pour ça que je vous encourage d'une part à signer les pétitions qui circulent actuellement un peu sur tous les réseaux sociaux pour défendre les valeurs, en tout cas véhiculées par le sport, pour ne pas retrouver les jeunes un peu... En tout cas, on connaît tous et toutes les valeurs du sport. Et aussi, peut-être, il faut s'inquiéter, certes, mais après, est-ce qu'on a les armes à l'heure actuelle en tant que collectivité pour pouvoir déjà savoir comment on peut contrer. Déjà, en interne, là-haut, on ne sait pas trop pour jusqu'en 2024, en sachant que on a réussi à avoir les Jeux Olympiques en 2024, il me paraît inconcevable quand même de refaire marche arrière jusqu'en 2024 complètement. Donc, attendons de voir un peu la fin d'année. Et après, en fonction, je pense qu'il y aura peut-être des ressources à aller chercher sur la politique de la ville, sur d'autres secteurs que le sport. Voilà.
Merci Agnès. Bien, maintenant je vais répondre à une question qui m'a été posée en commission au sujet d'un éventuel salon du livre. Donc voilà ma réponse. Notre réponse, pardon. Depuis 32 ans existe Bulle en or, qui accueille des dessinateurs, des auteurs de romans régionaux, nationaux et internationaux. La bibliothèque s'inscrit dans une nouvelle dynamique culturelle en renforçant son action de promotion du livre et de la lecture. L'IRALIS mène des actions de valeur, troc de livres au parc Maréchal. En 2018, on dénombre 110 événements littéraires en région Hauts-de-France, salons, festivals, manifestations nationales et régionales ou foires, répartis largement tout au long de l'année, la période estivale étant la moins chargée. L'Agence régionale du livre, afin d'accompagner les porteurs de projets, villes ou associations, a rédigé une charte des événements autour du livre et de la lecture afin de déterminer un cadre commun et partagé. Pour une association, organiser un salon entraîne d'importantes contraintes d'organisation, telles qu'un budget conséquent comprenant des défraiements des auteurs, de la restauration sur place, de la logistique. L'accueil des auteurs, les déplacements, la restauration, l'hébergement, quel auteur, quel thème, communication papier et numérique, l'animation, exposition, atelier, les partenaires, libraires, structures sociales, enseignement, volume horaire et ouverture au public, quel public cible, tout public, les scolaires. Pour la ville, accueillir un salon pose plusieurs problématiques, telles que quelle plus-value apporte l'événement au rayonnement local, quelle posture adopter en cas d'échec ou de succès, quels sont les objectifs pluriannuels fixés par l'organisateur, quel budget, quelle organisation, quelle garantie l'organisateur donne sur la bonne tenue du salon dans le cadre du plan Vigipirate. En quoi ce salon va-t-il se démarquer des autres existants, se souvenir de l'échec du salon de la Noix? Que faire du projet autour du livre et de la lecture en cours d'écriture pour la bibliothèque? Programme d'animation, plan de développement des collections, nouvelle mission. Pour la bibliothèque, complémentarité ou concurrence? Les missions de la bibliothèque reposent sur l'accès pour tous et de tous âges, aux collections et aux animations mises en place. Lieu de vie et de rencontre intergénérationnelle à fort pouvoir d'attraction. Service public de proximité en perpétuel renouvellement, bien implanté dans le réseau, à suivre de lamelles. Des actions proposées portées par la bibliothèque. Événements nationaux, Nuit des bibliothèques, Printemps des poètes, Partir en livre, Festival littéraire, Festival entre les livres, Actions autour des livres, Portage de livres à domicile, Accueil de classe, Un enfant un livre, Heure de compte, Portail documentaire, Jeux de société, Exposition interactive, Rencontres d'auteurs, etc. Les partenaires de la bibliothèque, les réseaux de bibliothèques avec la NOI, l'association locale, compagnie artistique et autres services municipaux. Après tout ça, faut-il ajouter un événement ? Au risque de faire perdre de son importance au salon de la BD, pourquoi ne pas associer un salon du livre à celui de la BD ? Ce n'est pas à nous de prendre la décision, il faut voir, avec les organisateurs du salon de la BD. Le programme proposé autour de la bibliothèque est déjà bien complété et nous ne cautionnons pas un nouveau salon de livres.
Oui, monsieur le maire.
Oui.
J'aimerais vous répondre. Donc, oui, je vois que vous avez bien travaillé le sujet, vous avez bien révisé le parfait petit manuel de comment organiser une manifestation littéraire. Vous avez fait ce travail-là, bravo. Vous vous positionnez en donneur de leçons. Vous essayez de sortir, on va dire, honorablement de cette histoire, en fait, de manière à ce que ça ne génère pas une polémique. Vous avez rappelé l'immense qualité et la fierté qui est la nôtre d'avoir un salon de la BD à l'Islay-Lannoy. Je ne peux que vous applaudir. Nous avons dans la salle la personne qui porte ce projet depuis des années et qu'on peut remercier et féliciter. Vous avez rappelé l'action formidable de l'association Lire Alice. Vous avez rappelé l'action extraordinaire menée par le personnel de la bibliothèque. Et bien entendu, on est d'accord avec vous sur l'ensemble de ces points. Maintenant, opposer un événement culturel à un autre, c'est pas ça le sens de la démarche. Vous avez parfaitement réussi votre rôle théâtral ce soir en pensant esquiver je ne sais quelle menace que représenterait ce salon du livre. Moi, je vais juste vous dire un truc. Mettre des bâtons dans les roues d'un projet culturel, ça ne grandit jamais un responsable politique.
Est-ce que vous savez l'implication dans le salon de la BD qu'a la ville ? Pourtant, c'est une association qui le gère. Et heureusement que c'est une association parce que la ville seule ne pourrait pas prendre l'organisation de ce salon. Est-ce que vous savez le nombre d'heures que les services techniques font dans la préparation, dans toutes ces choses-là ? Un personnel qu'on ne peut pas agrandir aujourd'hui. Et vous savez très bien parce qu'aujourd'hui, on nous baisse nos dotations. Est-ce qu'aujourd'hui, lancer un salon avec lequel on ne pourrait pas, malheureusement, on ne pourrait pas donner ce qu'on devrait donner pour que celui-ci fonctionne correctement, ce serait quelque chose de raisonnable. Ce n'est pas raisonnable de lancer quelque chose qu'on ne pourra pas soutenir. Chaque association, après, est libre de prendre une salle et d'organiser un événement. Mais ensuite, il faut aussi se rendre compte que nous sommes une commune de 13 500 habitants. On est dans une métropole qui compte 1 200 000 habitants à peu près, où il y a des événements de livres qui existent déjà. Il y a un festival d'autobiographie à Neuville-en-Ferrin. Il y a un festival du Polar à Templemar. Il y a déjà pas mal de salons qui existent au niveau du livre. On ne peut pas faire concurrence à d'autres événements. Bien sûr que si on avait la possibilité de le faire, on le ferait. Je sais bien que c'est exactement comme les discussions au budget. C'est facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais au niveau des réalités, nous n'avons pas les moyens financiers d'accompagner la création d'un salon du livre sur l'Islay-Lannoy. C'est dommage. Vous dites que monsieur le maire n'a fait que lire sa fiche et a bien révisé. Moi, j'aime pas trop votre ton professoral, mais vu que vous avez un ton professoral, dites-nous comment on fait pour réaliser, pour soutenir un événement d'une telle ampleur dans un contexte où on vient de le poser. Au niveau de la politique de la ville, on n'en a pas parlé, mais où il y a des crédits qui sont baissés et où on ne sait pas comment on va être mangé au niveau de la politique de la ville. On a la même chose au niveau du sport, On a aussi des obligations qui vont nous incomber au niveau de la restauration scolaire, parce qu'il y a des députés qui ne connaissent rien au fonctionnement des municipalités et qui inventent des règles comme ça, sans avoir mis le pied peut-être dans une école, hein, comment ça fonctionne aujourd'hui. On va avoir des dépenses complémentaires. On a la même chose dans énormément d'endroits de nos politiques. Et on a aussi les missions locales. Demain, on a un salon intérimaire qui est organisé par l'initiative de M. Fontaine et de la mission locale et de la maison de l'emploi, où là, on a aussi énormément de baisses de crédits qui vont arriver. Et on a aussi les contrats aidés qui sont supprimés, et notamment l'association Espoir, on a des craintes aussi pour les dames qui font traverser les enfants le matin.
Oui, excusez-moi. D'abord, je pense que les personnes qui portent ce projet sont compétentes, ambitieuses et ont parfaitement conscience des contraintes liées à l'organisation d'un tel projet. Ensuite, l'association en question a-t-elle demandé 1 euro ou 1 centime d'euro de subvention à la municipalité de L'Isle-et-la-Noix ? Non. L'association en question a-t-elle demandé la mise à disposition de personnel municipal à la municipalité de L'Isle-et-la-Noix ? Réponse : non. L'association en question a-t-elle demandé de l'aide pour sécuriser l'événement et répondre aux normes et aux critères imposés par Vigipirate ? Non. L'association a simplement demandé la mise à disposition d'une salle municipale. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, vous ne voulez pas d'un événement culturel supplémentaire à L'Isle-et-la-Noix ? Assumez-le. Mais
vous savez bien que si on organise un salon, n'importe quel salon qui va être organisé, automatiquement, il va falloir avoir du personnel municipal pour s'en occuper. Donc automatiquement.
Non, monsieur le maire. Non. Voilà. Je suis désolé, non.
Comment on peut faire autrement?
Excusez-moi, pour le week-end international, nous faisions tout nous-mêmes et ça ne coûtait pour ainsi dire rien à la commune.
Dans votre demande, la demande qui a été faite, c'est une demande de plusieurs sites, la demande qui a été faite pour le salon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça n'a pas été une seule salle. Non. Ce qui a été demandé, c'est la salle Agora et la salle des Muliers. Exactement d'ailleurs les mêmes salles que pour le salon de la bande dessinée, soit. Mais est-ce qu'il serait, si l'association souhaite faire un salon du livre sur un seul site, par exemple sur la salle des Muliers, on pourrait peut-être revoir la chose, mais sur deux sites, on ne peut pas, c'est impossible.
En partant du principe que chaque association, comme a dit Charles-Alexandre, a droit à une salle par an.
Et donc pourquoi cette association n'aurait pas le droit à une salle par an ?
Mais si, elle a le droit.
Ben alors ?
Non, à aujourd'hui, nous n'avons eu comme réponse, monsieur le maire, de votre part, qu'une intervention mise à l'ordre du jour pendant la commission de culture, ce qui n'a pas été fait. On a demandé la salle, effectivement, dans un premier temps, de B et des Muliers, ainsi qu'une salle pour pouvoir nous réunir tous les mois, parce que nous avons quand même déjà 13 adhérents, donc pour se réunir comme toute association, pour travailler un projet que vous appelez ambitieux et qui demande un certain nombre d'organisations pour qu'on puisse se rencontrer. Donc il faut un lieu. Nous n'avons eu aucune réponse. Effectivement, on a eu un premier refus pour la salle des Muliers, parce qu'elle était prise. Alors on a fait le choix, effectivement, de choisir une date, parce que pour les auteurs, on avait besoin d'une date fixe. On a joué gros, ça je le reconnais, mais on n'a jamais eu de réponse après pour la salle 2B. Quand on a dit « vous nous avez refusé la salle des Muliers, pouvez-vous nous donner une réponse pour la salle 2B ?» À ce jour, nous n'avons pas de réponse. Ça devait être donné en commission culture, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour. Et la salle où on pourrait se réunir tous les mois ne coûte rien en termes de personnel, en termes de subvention, c'est juste un local comme pour toutes les associations.
Non, pas toutes les
et nous attendons une réponse. Je compléterai aussi que pour certains salons, effectivement, vous avez fait le choix d'accompagner des associations et c'est tout à votre honneur. Vous avez parlé de l'IRALIS qui fait une manifestation une fois par an et elle n'entraîne en rien l'intervention des employés municipaux.
Alors, je tiens aussi à préciser plusieurs choses parce qu'il faut aussi faire un petit rappel de calendrier. Nous avons la surprise de voir dans la presse qu'un salon du livre allait se monter dans la commune avec les dates annoncées.
Voilà. Mieux tout serait...
Sans avoir de statut d'association déposé à la mairie, ni de récépissé de la préfecture. C'est comme ça que ça s'est passé.
Ah, parce que maintenant, on dépose des statuts de demande d'association à la mairie
au niveau de la commune, oui, on demande le récépissé, dépôt de l'association, des statuts d'association.
Alors, mais tiens, c'est bizarre parce que chaque année, vous me... Donc, à titre... je suis président de l'association Agir Ensemble. J'organise chaque année la fête du vivre ensemble. Je ne pense pas que vous m'ayez jamais demandé le récépissé de la préfecture pour louer, pour me mettre à disposition la salle des Muliers. Jamais.
C'est parce que c'est une association qui est connue, c'est pas une association.
Ah bah oui, non, d'accord, mais bien sûr. Il est vrai, Monsieur création... Prokopovitch, il est vrai que les personnes qui portent ce projet, les personnes qui sont à la tête de cette association, sont inconnues pour leur manque de sérieux, sont connues pour leur dilettantisme dans la ville. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Mais dites que vous ne voulez pas de ce projet, assumez-le.
Mais non.
Assumez-le.
Mais non.
Vous ne voulez pas d'un projet destiné à la promotion de la lecture dans la ville de l'Islay-la-Noix. Dites-le.
Non, mais c'est vous qui essayez de faire un coup politique en disant...
Un coup politique, mais arrêtez, non, arrêtez.
On vous explique au niveau administratif comment ça s'est passé. On vous explique comment ça s'est passé. Il y a un article de journal qui a dit c'est un week-end, telle date, telle date. C'est comme ça que ça s'est passé. On n'a jamais eu de déclaration d'association au niveau de la commune et ni de réserve au niveau du service de gestion des salles. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est après qu'un mail est arrivé et qui a dit on veut telle salle, sans avoir le récépissé de l'association. Et aussi, vous devez le savoir, quand on laisse organiser une manifestation par une association, il nous faut aussi des papiers d'assurance. Tous des papiers que nous n'avions pas au moment lors de cet été. Aujourd'hui, on vous propose une solution. Cette solution, c'est une salle. On ne peut pas deux sites. On propose une salle organisée uniquement par l'association qui s'en occupe. Et quand on dit qu'il n'y a pas de coût de personnel, c'est faux. Parce que qui fait le ménage, c'est quand même la commune. L'effet d'électricité, tout incombe à la commune. C'est pas ce qui va mettre en péril la commune sur ses frais, on est bien d'accord, on trouve pas, voilà. Mais quand même, soyez honnête, tout ce qui a été fait auparavant, tous les articles de presse, la commune n'a jamais été mise au courant. Jamais.
Je suis ravi d'apprendre qu'en plus, les responsables de cette association sont malhonnêtes.
Bien, donc je pense que... On va arrêter, c'est pas une question de...
Arrêtons. Alors, oui ou non, cette association pourra-t-elle bénéficier d'une salle pour organiser son événement ?
Je vous répète que, à l'Islay-la-Noix, chaque association dispose d'une salle par an pour faire sa manifestation. C'est dans les statuts de l'Islay-la-Noix, ça a toujours été comme ça. Alors, je n'ai pas dit que ce sont des gens malhonnêtes. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ce sont des gens qui n'ont pas utilisé les bons créneaux, les bonnes filières pour venir s'annoncer. On a été surpris dans la presse d'apprendre qu'il y avait une association autour du livre. C'est un petit peu dommage. Mais il n'y a aucune question de malhonnêteté là-dedans. Hein.
Alors, accordez-vous violon, je repose ma question de manière très simple. Oui ou non, cette association pourra-t-elle bénéficier d'une salle pour organiser son événement ?
Je viens de vous le dire, monsieur.
Toutes les associations ont le droit à une salle gratuite du moment où elles ont leur siège à l'Islay-la-Noix et qu'elles ont une déclaration au niveau de la préfecture et qu'elles ont une assurance. Toutes les associations, on n'a jamais refusé une association, un événement d'association, si ces trois conditions étaient remplies.
Mais vouloir s'installer sur un créneau où il y a déjà un salon, ce n'est pas possible.
Je suis désolé. En plus, on a discuté, et vous aviez même essayé de faire une polémique par rapport à la ferme du Goquet, où là, oui, on ne loue plus gratuitement, hormis convention avec l'association, pour certains événements, mais on ne loue plus, on ne donne plus gratuitement la ferme du Goquet aux associations. Et vous vous en souvenez, vous avez essayé aussi de faire une polémique à ce sujet.
Bien, donc on peut, l'incident est clos, et voilà la réponse que l'on a donnée. Maintenant, on va passer à l'ordre du jour. Par l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2018. Qui est pour ? Ah, j'ai commencé à l'envers. Ouais. C'est pas grave, tout le monde est pour. Merci bien.
Procès-verbal adopté à l'unanimité.
Non, il n'y a pas d'abstention, pardon.
Excusez-moi, je n'ai pas levé ma main et je voulais m'abstenir, pardon,
c'est de ma faute. C'est de ma faute.
Donc on recommence. C'était la dernière fois.
Voilà, c'est parce que j'étais perturbé. Donc je répète, qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Voilà, on y arrive.
Par contre, je voudrais reprendre la parole. J'ai cherché les documents avant d'avancer
sans preuve factuelle. Donc l'article de la Voix du Nord date du 4 juillet. D'ailleurs, nous avions reçu Madame Jobard le 30 juin. Et vous avez une demande de mise à disposition des salles et annonce de la création de la salle en date du 28 juin, envoyée à la gestion des salles à Lisle-et-Lanois.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer l'ordre du jour.
Procès verbal adopté par 31 voix pour et une abstention.